RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
17h45 sur RRB Info Weekend, Lionel Sabot.
Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie pour une semaine. Il a débuté son séjour par une cérémonie de dépôt de gerbe à la Croix de Lorraine au Mont Coffin. Cette semaine, il faudra s'asseoir les uns les autres, sans haine, avec la volonté de s'écouter et de se construire. Déclaration du ministre des Outre-mer ce matin, lors de sa visite au Sénat coutumier. Manuel Valls s'est ensuite rendu à la brigade de gendarmerie de Ploum au Mont d'Or, où il s'est incliné devant la stèle en hommage au gendarme Molinari, mort au premier jour des émeutes. Page spéciale dès le début de ce journal. Benjamin Netanyahou promet de punir le Hamas après les révélations sur les conditions du décès de deux enfants otages à Gaza. Ils ont été tués à main nue par les terroristes islamistes. Le 61e salon de l'agriculture à Paris, la plus grande ferme de France, sera ouverte pendant 10 jours. Emmanuel Macron procédera ce soir à l'inauguration officielle. Et puis le sport et un week-end de reprise en Calédonie avec le retour des compétitions de kitesurf freestyle et la première édition cet après-midi des Folies Solidaires à Tina. Soyez bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, la première journée de la visite de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie. C'est un peu après 8 heures que l'avion dans lequel se trouvait le ministre des Outre-mer s'est posé à l'aéroport de la Tontouta ce matin. Manuel Valls a été accueilli par le maire de Païta, Marilyn Darcongelo. Et après un bref passage au commissariat, le ministre des Outre-mer s'est rendu à son premier rendez-vous public au Mont Coffin. Manuel Valls y était attendu par plusieurs centaines de partisans de la France, inquiet des récentes déclarations du ministre sur la souveraineté. Drapeau bleu, blanc, rouge à la main, positionné à l'entrée de l'esplanade qui mène à la Croix de Lorraine. Ils ont entamé une Marseillaise à l'arrivée de Manuel Valls avant de scander « Non, c'est non ». Le ministre des Outre-mer a rejoint ensuite le rang protocolaire sur lequel figurait le président du gouvernement, Alcide Ponga, la présidente du Congrès, Velma Falaeo, la présidente de la province sud, Sonia Bakès, le député Nicolas Metzdorf, le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, le sénateur Georges Naturel, le général Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, le général Nicolas Mateos, commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie et les représentants des anciens combattants et des associations patriotiques. Après un passage en revue des troupes, le ministre des Outre-mer a déposé une gerbe au pied de la Croix de Lorraine. Après avoir salué les représentants du monde judiciaire et de la société civile, venus très nombreux, il a été à la rencontre des manifestants.
Tout le monde doit prendre ses responsabilités, ici comme à Paris. Ici comme à Paris.
Les Calédoniens ont souffert.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de souffrance. Monsieur, il y a la souffrance et il y a beaucoup de peur aussi. Et je le sais.
On peut rester français.
Mais pourquoi vous ne resteriez pas français? Pourquoi vous ne resteriez pas français? Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit d'abord. Mais déclarations, j'ai lu la Constitution.
Donc on sera là.
Mais il faut. Je ne céderai. Je ne céderai jamais à la violence ni à l'intimidation.
Emmanuel Valls a pris donc le temps d'échanger avant de rappeler les objectifs de sa visite.
Moi, je suis venu dire que la France est toujours là. Et que le lien avec la Calédonie, il est fort. Il est d'autant plus important que je vais de nouveau annoncer des mesures importantes pour soutenir l'économie qui va mal, les entreprises, les chômeurs, une économie qui est aujourd'hui par terre. Et puis pour renouer et poursuivre le dialogue. Parce que sans dialogue, il n'y a pas d'avenir non plus.
Autre moment important pour cette première journée de la visite du ministre des Outre-mer en Calédonie, Manuel Valls qui s'est rendu ce matin au Sénat coutumier, route de Nouvelle-Miquel, Juneski.
Il a tenu à saluer les représentants de l'institution coutumière lors d'un échange d'environ une heure au siège du Sénat coutumier. Ce n'est pas la première fois qu'il emprunte ce chemin et Manuel Valls souhaitait réaffirmer le respect qu'il porte à la coutume dès le début de son séjour.
Je suis venu chercher la force, la sagesse pour réussir ce dialogue, ce compromis et ce consensus. Ça fait partie de la culture kanak, le consensus, qui sont indispensables pour cette semaine essentielle pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Rien ne peut se passer en Nouvelle-Calédonie sans un profond respect vis-à-vis du peuple mélanésien, du peuple kanak et du peuple premier. Il y a un peuple premier. C'est au cœur des discussions, des négociations depuis 1983-1984, formalisées à Matignon et à Nouméa, et depuis. Et vous venez de très loin. Un enracinement profond que tout le monde doit respecter et que personne ne peut oublier. Cette culture, ces esprits, ils sont importants pour construire l'avenir. Pour cette semaine, il faudra s'asseoir les uns et les autres, sans haine, avec la volonté de s'écouter et de se construire autour de cette nappe.
Après les coutumes d'accueil, Manuel Valls et les sénateurs coutumiers se sont retrouvés pour un temps d'échange dans l'hémicycle de l'institution à Nouville. À la sortie, le président du Sénat coutumier, Éloi Goé, s'est dit pleinement satisfait de cette rencontre avec le ministre des Outre-mer.
Échange intéressant, positif sur toute la ligne. Nous avons affaire à quelqu'un qui connaît complètement le sujet. Que ce soit l'avenir institutionnel ou tout ce qui se passe ici, pour avoir été là au tout début, quoi, accompagner les artisans des accords politiques. Quoi. On était complètement en phase.
Manuel Valls vous a fait un petit cadeau, c'est ça?
Oui, j'ai pas très bien retenu tout à l'heure le...
C'est un vrai Picasso?
Non, effectivement, on a fait des échanges d'objets là, et puis ça, c'était plutôt bien, quoi, convial. Quoi.
Je fais de la radio, j'ai pas l'image, mais on peut décrire.
Oui, la symbolique de la symbolique du poignet de main, de la poignée de main. Quoi. Enfin, je sais pas si c'est une poignée de main ou c'est plutôt main dans la main plutôt.
Le ministre des Outre-mer qui a en effet offert parmi les présents, lors des coutumes, une illustration tirée d'un croquis de Pablo Picasso, deux mains croisées, non pas l'original donc, mais une copie dans un cadre daté et dédicacé par Manuel Valls, lui-même d'origine espagnole, et qui souhaitait faire un geste fort en symbole, le dessin de deux mains qui se croisent, où l'on peut imaginer évidemment une nouvelle poignée de main.
Une première journée de visite du ministre des Outre-mer, également marquée par un hommage au gendarme Nicolas Molinari, tué à la coulée le 15 mai dernier, alors que le territoire était en proie à des violences insurrectionnelles très graves. Reportage signé Nicolas Legrand.
Rendre hommage au jeune gendarme Molinari, mort pour la France, et plus largement à l'action des forces de l'ordre qui ont travaillé sans relâche pour ramener l'ordre républicain sur le territoire. C'est le sens de ce dépôt de gerbes qui a eu lieu à midi à la caserne de gendarmerie de Ploum. Manuel Valls s'est incliné devant la stèle érigée en la mémoire du gendarme Molinari. L'occasion pour lui également de rappeler que la justice poursuit son travail pour retrouver l'auteur du coup de feu mortel.
Au cours de cette première journée, même de cette matinée, ici à Nouvelle-Calédonie, je voulais rendre hommage à ce très jeune gendarme, Molinari, qui est tombé dans des conditions que vous connaissez tous, alors qu'il était dans une action de protection de ce territoire, de cette partie sud, que chacun soit bien conscient que la justice aussi fait son travail et avance. Les gendarmes ont été exceptionnels, comme toutes les forces de l'ordre. Il faut leur rendre hommage, parce que sans l'ordre républicain, il ne peut pas y avoir de paix et d'avenir.
Lors de ce déplacement du ministre des Outre-mer, l'association Citoyens Mondoriens s'était rassemblée pour rendre hommage au gendarme Molinari et pour passer plusieurs messages au ministre qu'ils ont accueillis en entonnant la Marseillaise. Laurent Perrin, le président de l'association Citoyens Mondoriens.
C'était tout d'abord pour commémorer la mémoire de Nicolas Molinari qui est mort sur notre pont à la coulée en défendant nos valeurs républicaines, notamment celle de la démocratie. Donc nous, en tant qu'association de citoyens, on défend aussi la démocratie. Donc ça veut dire qu'il faut respecter les trois noms qu'on a donnés.
Non, c'est non.
La population est très bienveillante, surtout après ses propos sur la souveraineté, puisque effectivement la démocratie a dit trois fois non, donc il n'y a aucune raison de remettre ça en question.
Manuel Valls est allé à la rencontre de l'association Citoyens Mondoriens, mais l'échange a tourné court lorsque certains participants au rassemblement se sont adressés au ministre avec un accent espagnol.
On est français,
mais
bon.
Vous avez bien raison d'être
fier d'être français. On a l'impression que la France
français.
Nous a oublié.
Mais vous êtes la France, et je suis là c'est pour annoncer d'abord un fort soutien économique, parce qu'on en a besoin.
Ah bah, c'est sûr.
Donc dites pas que la France oublie, elle est là.
Même si le monde sud, il est mort.
Ça, je sais ce que vous vivez ici. Je ne suis pas à votre place, mais je sais que vous souffrez beaucoup et depuis longtemps.
Hein,
voilà.
Non, c'est non.
Si vous voulez, c'est vous. Toujours le respect vis-à-vis des citoyens et aussi de ceux qui représentent le gouvernement. C'est la seule chose.
Ça fait 40 ans qu'ils nous crachent dessus.
Faut nous respecter aussi.
S'en est suivie une explication musclée entre Manuel Valls d'un côté et la présidente de la province sud Sonia Backès et le député Nicolas Metzdorf de l'autre concernant les déclarations du ministre des Outre-mer sur la pleine souveraineté. Écoutez Nicolas Metzdorf.
On a un désaccord profond avec le ministre, ça c'est vu, c'est de bon augure pour la suite. Ça c'est normalement un échange qu'on a hors caméra, donc ça nous empêche pas de continuer à faire les négociations qui sont prévues toute cette semaine. Mais ça vous donne le ton et ça vous donne aussi... un aperçu de la difficulté de la question calédonienne, où il y a des vrais désaccords de fond sur ce que c'est un peuple, ce que c'est un pays, ce que c'est une nation qui se construit. Et donc, on a des divergences de fond qui se sont exprimées là. Je regrette qu'il ait voulu faire ça publiquement.
Et lors de cet échange plutôt tendu, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, et la présidente de la province sud, Sonia Backès, ont réaffirmé au ministre d'État Manuel Valls que malgré ces divergences, il participerait bien à toutes les séquences de discussion. À Ploum, Nicolas Legrand, RRB.
Et après le Mont d'Or, le ministre s'est envolé pour Ouvéa, où un hommage à la brigade de Fayaoué et un échange avec les gendarmes étaient prévus cet après-midi. Manuel Valls s'est également recueilli devant le mémorial des 19 et il devait également s'entretenir avec le président de la province des îles, Mathias Ouaneux, et rencontrer les maires des trois communes des îles. Manuel Valls va donc passer 8 jours en Nouvelle-Calédonie. Demain, le ministre des Outre-mer débutera sa journée à 7h15 à la brigade de gendarmerie de Saint-Michel au Mont d'Or, où il remettra des décorations avant d'échanger avec les militaires. Le ministre se rendra ensuite à Dimbéa, où il visitera les ruines du centre commercial Kenuin, qui a été presque totalement détruit lors des émeutes du mois de mai dernier. Manuel Valls se rendra ensuite en brousse. Il visitera une exploitation agricole à Moindou, puis une centrale photovoltaïque et une ferme aquacole à Bouloupari. De retour à Nouméa, le ministre des Outre-mer dînera au centre culturel Chibaou avec les membres du comité Parole, Mémoire, Vérité et Réconciliation. Il est 17h57, nous allons marquer une première pause dans le journal. Vous restez avec nous dans un instant, c'est la suite de l'actualité en Calédonie.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Urgence pouvoir d'achat. Vous entendez ? C'est la rentrée ! Mais c'est aussi et surtout l'occasion de participer à notre grand jeu spécial rentrée jusqu'au 23 février pour gagner plus d'1 million de francs de cadeaux. Pour jouer, rendez-vous dans votre magasin Hyper U Paita et remplissez le bulletin de jeu sur l'une des bandes sur place. Jeu sans obligation d'achat, règlement disponible en magasin, tirage au sort le 24 février. Suivez toute notre actualité sur notre page Facebook et profitez de nos promos rentrée des classes dans notre catalogue. Hyper U, sortie Paita Centre.
U, commerçant autrement.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal avec vous, Lionel Sabot.
Et le reste de l'actualité en Calédonie au chapitre des faits divers. À Nouméa, un homme s'énerve et tire un coup de feu en l'air à la suite d'un différend familial. Ça s'est passé vers 13h cet après-midi dans le quartier de Trianon. Il n'y a pas eu de blessés. L'homme s'est ensuite retranché dans son appartement. Le RAID, l'unité d'élite de la police nationale, a dû intervenir avec l'appui d'un négociateur qui a raisonné l'individu. Ce dernier a fini par accepter de se rendre aux forces de police sans opposer de résistance. Le coup d'envoi des soldes d'été. Les premiers clients ont fait le déplacement de bonne heure ce matin, notamment dans le centre de Nouméa, pour pouvoir profiter de bonnes affaires. Des soldes qui arrivent dans un contexte économique difficile et après la rentrée des classes.
La vie est tellement chère que maintenant, on a plutôt tendance à aller vers les promotions. C'est trop cher, trop cher. On en souffre.
Ça devient compliqué, c'est vrai.
Très compliqué.
Comme j'ai un cadeau à faire, donc je profite des soldes. Super.
D'être à Nouméa pour faire les soldes. De brousse, de canal. On trouve notre bonheur là.
Oui, c'est pas mal les vêtements qu'ils vendent ici. Puis c'est pas cher. Oui, c'est ça, il faut profiter.
Là-bas, au magasin, enfin, les magasins qui ont des stockages, c'était net.
C'est très bien. Surtout pour la rentrée. Quand on a des grands garçons comme ça, des petits garçons comme ça là.
Ben pour faire les soldes, ben c'est bon ça. Ça nous convient quoi, pour les prix quoi. Ça nous arrange quoi, au portefeuille.
Oui, c'est bon, on en a trouvé pas mal déjà. Le linge pour les enfants de l'école, ouais, c'est ça. Oui, ça vaut le coup, c'est bon, c'est moins 50, il y en a, c'est moins 70. C'est que du bonheur.
Des témoignages recueillis ce matin par Mickaël Juneski. Les soldes, une période de promotion dans de nombreux magasins qui se dérouleront jusqu'au 23 mars prochain. Fête du sport, c'était aujourd'hui à Nouméa. La ville organisait sa journée 100% sport au complexe sportif de Lansvata. Et le moins que l'on puisse dire, Léo Fichou, c'est qu'il y en avait pour tout le monde.
Et oui, effectivement, pour cette 6e édition de Fête du sport, près de 50 associations sportives étaient réparties en 6 pôles différents. Les sports de raquettes, les arts martiaux, les sports aquatiques, les sports individuels, les sports collectifs et enfin un pôle institutionnel avec tous les partenaires, notamment la mairie de Nouméa. Écoutez, Alexandre Enrard, il est chef du service des sports de la ville de Nouméa.
Bah écoutez, ça se passe très bien. J'ai l'impression qu'on fait le tour un peu des différentes associations. Les associations ont l'air plutôt contentes. Il y a du monde, il y a beaucoup d'enfants qui essayent toutes les activités. Donc si tout le monde y trouve son compte, eh ben, nous on est contents aussi.
Pour les enfants, mais les parents aussi peuvent trouver leur bonheur.
Effectivement, les parents peuvent aussi s'inscrire dans des associations, ou même que ça soit associative ou qu'elle soit communale. Nous aussi, on propose des actions pour les plus grands. On a un programme spécifique pour les seniors, les plus de 60 ans, dans le cadre du dispositif Sport Action. Donc il y en a pour tous les goûts. Et on est plutôt contents. En plus, c'est un peu couvert, donc il fait chaud, mais pas trop chaud. Donc oui, ça se passe bien. Il n'y a pas de pluie. La pluie, elle est tombée hier. Donc on est content de la journée.
Et vous l'avez donc compris, hein, que vous soyez jeune ou senior, débutant ou confirmé, ce rendez-vous permettait de trouver l'activité qui vous correspond. Et vous étiez nombreux à découvrir ou redécouvrir la cinquantaine d'activités proposées sur l'événement.
Bah déjà, on a essayé les sports, on a essayé plusieurs choses variées. J'ai fait de l'échec avec de l'équitation et de l'acrogym.
Il y a de l'initiation, il y a de la pratique aussi, il y a de l'apprentissage. Donc le tech ball, c'est un peu tennis de table avec un ballon, voilà, deux adversaires et tout, et ça se joue, voilà, c'est très technique.
On est venu proposer à nos enfants de découvrir d'autres activités, parce qu'ils sont en train de rechercher leurs activités extrascolaires pour cette année. Et l'athlétisme, c'est plutôt pas mal parce que c'est une activité qu'on peut faire en famille, les parents aussi.
Je vais essayer la boxe. J'ai fait de l'acro-gym, j'ai fait du tennis, juste pour tester. Sinon, je fais de la gym l'après-midi.
En fait, on est venu en famille avec les deux enfants. Et bah, le but, c'est de trouver le club qui va convenir à nos enfants. Hein. Mais en fait, on a trop trouvé, c'est ça le problème. Donc maintenant, il faut choisir.
Et si vous avez manqué l'événement, pas de panique. Hein. Toutes les informations sur les différentes activités proposées par les clubs, mais aussi par la ville, sont disponibles sur le site de la mairie de Nouméa.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Allez, souvenir de rentrée, vous le savez, c'est le petit plus Radio Rythme Bleu pour vous accompagner pour la rentrée scolaire. Un chef d'établissement qui nous raconte ses souvenirs de rentrée. Il nous parle aussi de l'évolution de son métier. Ce soir, on écoute le témoignage de Thomas Calerne. C'est le responsable du lycée agricole d'Onéva de Wailouf.
Mon principal souvenir de rentrée, c'était en 6e au collège, donc. Et c'était une rentrée très agréable parce que l'on découvrait notre emploi du temps et des nouveaux profs, une diversité d'enseignants qui me plaisait beaucoup. Alors c'était le collège Berlioz à Colmar et notre principal c'était monsieur Fuchs qui est devenu ensuite député durant la période où j'étais au collège Berlioz, qui n'existe plus d'ailleurs parce qu'on l'appelait Lustucru, le collège, vu que c'était des boîtes en amiante bleues et blancs comme les boîtes Lustucru à l'époque.
Quelles sont les principales évolutions par rapport à cette époque, maintenant que vous êtes chef d'établissement?
Énormément d'évolutions. Il y a eu une évolution pédagogique, d'abord, avec des enseignements beaucoup plus proches de l'élève, avec une individualisation des parcours. Bon, après, moi, j'ai passé tout mon cursus à l'école publique, vu que l'enseignement privé avait un autre statut en métropole qu'en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, je n'ai enseigné que dans l'enseignement privé. Donc j'ai noté aussi des rapports humains beaucoup plus proches, beaucoup plus conviviaux, des établissements aussi beaucoup plus petits. Il y avait des grands changements quand même à l'époque, parce qu'on avait le droit de fumer. Il y avait même de l'alcool à table, à l'internat. Donc tout ça, avec la loi Evin, ça a beaucoup changé. En mieux, parce que je me souviens, en 3e, tout le monde fumait cigarette. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu une nette avancée là-dessus. Quoi.
En Nouvelle-Calédonie, il y a eu une évolution par rapport à votre première année en tant qu'enseignant ou responsable d'établissement en Calédonie?
Oui, depuis 1987, enseignant, et puis depuis 2004, en Nouvelle-Calédonie, chef d'établissement, il y a eu de nets progrès. D'une part, dans les conditions d'hébergement, dans les conditions aussi d'enseignement, et puis d'accueil des enseignants dans les régions comme celle de Wailou, avec davantage de moyens, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le contrat d'association, on était encore en contrat simple. Il y a eu le contrat d'association pour les enseignants, puis ensuite le contrat d'association pour les forfaits d'externat et d'internat. Et il y a eu de nettes améliorations aussi au niveau des enseignants, parce qu'à l'époque, on était beaucoup de métropolitains, Puis aujourd'hui, on a quand même 80% dans l'enseignement privé d'enseignants calédoniens. Voilà, donc là aussi, on a vu une nette amélioration de l'emploi local sur ce métier d'enseignant. Au niveau des pratiques éducatives également, hein, ça a beaucoup évolué. Dans le sens que, à l'époque, on parlait encore de la trique. Aujourd'hui, c'est une phase complètement révolue avec des méthodes pédagogiques, éducatives qui permettent aux élèves de prendre confiance en eux, de s'ouvrir et de s'émanciper aussi.
Le responsable du lycée agricole d'Oneva de Wailou au micro de Kalinda Boiscouf.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez-nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Il est 18h06, on marque une nouvelle pause dans ce journal.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Le marché Broussard revient au marché de Boulary le 23 février prochain. Toutes les saveurs de Brousse seront représentées, ambiance et convivialité assurée par le groupe Timeless. Le marché Broussard de Boulary, c'est de 6h à 13h le 23 février prochain. Rendez-vous ce dimanche au marché de Boulary.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Yonel Sabot.
Et l'actualité à l'étranger, Benjamin Netanyahou promet de punir le Hamas après les révélations sur les conditions des décès des deux enfants otages de Gaza, Ariel et Kfir Bibas. Les deux enfants ont été tués à main nue, affirment les médecins légistes. Leur corps avait été remis aux autorités israéliennes hier, mais pas le corps de leur mère. Il y a quelques heures, certaines informations indiquaient qu'une dépouille avait été remise à la Croix-Rouge, un corps qui pourrait être celui de Shiri Bibas. Ce soir, ce sont 6 otages israéliens qui doivent être libérés. Dans le même temps, Israël libérera plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, tous condamnés pour des actes de terrorisme. La première phase de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël se termine dans une semaine et certains redoutent désormais la reprise de combat. Frédéric Simon pour Europe 1.
Cette violation flagrante des termes de l'accord par le Hamas risque en effet de remettre en cause le maintien du cessez-le-feu et la poursuite des échanges entre otages israéliens d'une part et détenus palestiniens de l'autre, alors même en effet que l'on s'approche de la fin de ce que l'on appelle la première phase de l'accord. Un premier test pour la poursuite de la mise en œuvre de cet accord sera la libération de 6 otages. En contrepartie, Israël devrait relâcher plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, certains lourdement condamnés pour terrorisme. Tout porte à croire, à l'heure qu'il est, que cet échange se déroulera comme prévu, mais on sait qu'une partie de la coalition gouvernementale dirigée par Benjamin Netanyahou prône la reprise des combats contre le Hamas et qu'elle est renforcée par les violations de l'accord dont s'est rendu coupable l'organisation terroriste. Les dirigeants israéliens doivent composer également avec les pressions américaines et celles de l'opinion publique en Israël qui est sensible au sort des otages qui sont encore entre les mains du Hamas. On estime qu'il y a presque une soixantaine d'otages dans la bande de Gaza à l'heure où nous parlons. La moitié environ serait en vie.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, et j'apprends que les autorités israéliennes viennent de confirmer que la dépouille remise il y a quelques heures à la Croix-Rouge était bien celle de Shiri Bibas. L'actualité dans la région Pacifique. Canberra a déposé une protestation diplomatique auprès de Pékin après que des vols commerciaux ont été contraints de changer de cap au dernier moment afin d'éviter des exercices de tir réel par des navires de guerre chinois au large de la côte est de l'Australie. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Pékin aurait indiqué hier matin que ces 3 navires de guerre en train de longer la côte est de l'Australie se préparaient à effectuer un exercice de tir à environ 650 km en mer. Avisés par l'aviation civile et la direction de leur compagnie aérienne, 3 vols commerciaux auraient alors pris la sage décision de se dérouter de l'espace maritime en question. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a indiqué ce matin que Canberra n'a pas été directement informé de la tenue de cet exercice. « Je n'ai été avisé du danger que par la diffusion d'un message radio aux appareils commerciaux opérant dans la zone », a-t-il dit. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a soulevé la question avec son homologue chinois Wang Yi en marge du sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient en Afrique du Sud. Les exercices en question ont été menés de manière sûre et professionnelle à tout moment, conformément aux lois et aux pratiques internationales en vigueur, a précisé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Venons-en à l'actualité en métropole. C'est dans quelques heures maintenant que s'ouvrira au public le 61e Salon de l'agriculture à Paris. La plus grande ferme de France sera ouverte pendant 10 jours. Comme le veut la tradition, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui procédera à l'inauguration officielle. Sur place, Porte de Versailles, les exposants sont prêts pour accueillir le public. Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Les allées du pavillon 1 sont témoins du balai continu des vaches, véritable star du Salon de l'agriculture. Elles passent de leur stall aux douches, des douches à la tonte, dans une chorégraphie parfaitement bien réglée.
On nettoie les vaches, donc à la douche, comme nous les humains, à l'eau chaude et tout ça.
Maëlle, éleveuse dans le Jurançon.
Et on les tourne au plus court possible pour les rendre plus jolies, plus raffinées, plus fines. Ça l'embellit encore plus.
Fin prête donc pour accueillir les premiers visiteurs et parmi eux, Emmanuel Macron, le président, est attendu dans une atmosphère moins électrique que l'an dernier, même si bon nombre d'agriculteurs n'attendent rien de sa venue, à l'image de Sébastien, éleveur des Pyrénées-Orientales.
Alors on est, je pense, dans une impasse, parce que peut-être qu'ils nous comprennent, mais nous, on n'a pas vraiment l'impression. Et on a surtout l'impression qu'à chaque fois qu'on leur explique nos problèmes, il ne se passe jamais rien de concret sur le terrain. On ne va pas courir après Emmanuel Macron pour essayer de lui expliquer quelque chose, parce que de toute façon, ça ne changera rien.
Emmanuel Macron devra donc se montrer à l'écoute s'il veut renouer le dialogue avec le monde agricole.
Guillaume Dominguez au Salon de l'agriculture pour Europe 1, 18h12, une dernière pause dans ce journal dans un instant. Sport et météo.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB Recherche, un agent commercial patenté. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite journal et tous les sports, Yonel Sabot.
Et on va commencer avec du football. Et Rennes qui est venu à bout de Reims en ouverture de la 23e journée du championnat de France de Ligue 1, Léo Fichou.
La victoire sur le plus petit des scores, 1-0 des Rennais alors que les Rémois ont terminé la rencontre à 9 contre 11 après avoir écopé de 2 cartons rouges. La nuit prochaine à 3h, choc au programme entre Lille et Monaco avant que les Verts de Saint-Etienne ne reçoivent Angers à 5h. Puis Marseille se déplacera sur la pelouse d'Auxerre, ce sera à 7h05.
Et puis toujours en football, l'équipe de France féminine, elle a réussi son entrée en lice dans la Ligue des Nations. Les Bleus se sont imposés 1-0 sur la Norvège. Prochain match, ce sera mercredi à 7h contre l'Islande. On passe à l'actualité du rugby avec la 3e journée du tournoi des Six Nations.
Performance, dépassement de soi, passion, entrée dans la mêlée des pages spéciales tournoi des Six Nations sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et Fabien Galthié, Léo, qui a dévoilé la composition du 15 de France, qui affrontera l'Italie, ce sera lundi.
Oui, c'était attendu et c'est désormais officiel. Il y a du changement avec les titularisations de Léo Barré à l'arrière, de Théo Atisogbe sur l'aile et de Mickaël Guillard au poste de deuxième ligne. Thomas Ramos, lui, jouera en 10 à la charnière aux côtés du capitaine Antoine Dupont. On notera également les titularisations des Calédoniens Peato Maobaka et de Yoram Moefana. En revanche, Damien Penaud et Mathieu Jalibert ne sont pas sur la feuille de match. Fabien Galthié, le sélectionneur, a confirmé un banc en 7-1 donc, avec 7 avant et un seul 3 quarts. Ce sera Maxime Lucu. Italie-France, c'est à suivre dans la nuit de dimanche à lundi pour nous, à 2h du matin. Mais avant ça, rendez-vous la nuit prochaine à 1h15 pour Pays de Galles-Irlande, puis à 3h45 pour Angleterre-Écosse.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Le rugby, c'est aussi ce week-end la 17e journée du top 14, le championnat de France élite.
Le Castres Olympique recevra Lyon en ouverture la nuit prochaine. Ce sera à 00h30 pour nous. La rencontre sera suivie à 2h30 d'un multiplex avec au programme Toulon Stade Français, Vannes Montpellier, section Paloise USAP et Stade Rochelet Racing 92. Demain matin à 7h05, le Stade Toulousain accueillera l'Aviron Bayonnais. Et puis en clôture de cette 17e journée de Top 14, à la même heure, donc à 7h05, l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, sera opposé à Clermont.
Et quelques mots de sport d'hiver également avec ce week-end les championnats du monde de biathlon qui se poursuivent en Suisse.
D'abord ce soir, à partir de 22h05, le relais dames, un relais tricolore composé de Julia Simon, Justine Brezaz-Boucher, Lou Jean Monod et d'Océane Michelin qui a été préférée à Jeanne Richard. Ensuite, ce sera au tour du relais hommes avec Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet et les frères Claude. Je rappelle que la délégation française a déjà glané 10 médailles, 5 en or et 5 en bronze après seulement 8 courses.
Du tennis, c'est pas de victoire pour Maxime Chazal ce matin sur le tournoi Challenger de Brazzaville au Congo.
Il était associé en double à un autre français, Geoffrey Blancano, le calédonien. S'est incliné en finale contre la paire brésilienne, tête de série numéro 1 du tournoi composé de Barreiros Reyes et de Saraiva Dos Santos. Ils ont perdu en 3-7, 4-6, 6-1, 6-10.
Venons-en à l'actualité sport sur le territoire avec un week-end de première en kitesurf, en cyclisme et en trail.
Et on démarre sur terre d'abord avec la première édition des foulées solidaires qui avaient lieu cet après-midi à Tina, organisée par l'Union des trailers de Nouvelle-Calédonie. Ces foulées ont rassemblé pas moins de 130 participants. L'inscription était particulière, unique même sous la forme de troc, des denrées alimentaires ou d'hygiène contre un dossard. L'idée a bien plu à Françoise et à Benjamin.
Cette idée de troc est formidable. Alors, très sympathique au départ. À l'arrivée aussi, un peu essoufflée, mais oh, on va recommencer dans quelques instants. Je pense que je le ferai deux fois. Je vais voir. À recommencer. Merci aux organisateurs.
Ouais, c'est super. Bah, en fait, c'est là pour tous les goûts. Ça monte, ça descend. C'est sport quand même.
Et cette idée de don pour l'inscription, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ouais, je trouve ça formidable. C'est nécessaire, surtout en ce moment.
Et tous les dons ont été remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul et au Secours catholique de Nouvelle-Calédonie. Et tant qu'on parle de course à pied, on reste autour des trails. Les trailers ont rendez-vous demain au Yala Ranch. Ce sera dès 7h30 pour le Blue Bat Trail. Des parcours, on le rappelle, de 3, de 10 et de 15 km au programme.
Et puis autre première, celle des compétitions de kitesurf freestyle cette année.
Et ce matin, l'ANG a organisé, après plusieurs années d'arrêt, une compétition jeune et open sur la plage du Méridien. Il y avait une vingtaine de participants, dont les champions Arthur Gilbert et Phoebe Rocher. Le détail de cette journée avec Stéphane Guilbert, la présidente de la SPTT Nouméa Glisse.
On lance, grâce à notre partenaire Bureau Vallée, un challenge sur toute l'année. Il y a 6 dates de prévues. Le vent était au rendez-vous. Et donc, on a vu un podium chez les adultes de haut niveau avec du grand spectacle sur la plage du Méridien. C'est Arthur Gilbert qui est vice-champion du monde 2024 quand même, qui remporte du coup cette première étape du Challenge Bureau Vallée, suivi de Tom Hébert et de Fébé Rocher. Chez les jeunes, le podium c'est Raphaël Vanier, suivi de Mario Bonnet, suivi de Malo Content.
Et le prochain rendez-vous est donné le 22 mars pour la deuxième étape de ce challenge Kite Bureau Vallée, qui est organisé par l'ANG, je le rappelle. Il y aura en tout 6 étapes.
Et puis un petit mot de cyclisme avec la première course de l'année. Ce sera demain matin, dès 7h, le critérium de Païta avec 53 participants, des U13, des U15, des U17, des hommes et des femmes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Maxime. Et
effectivement, alors bien, bonsoir à tous. Pas de vigilance particulière tout d'abord pour cette nuit. Près des pointes nord et sud, ainsi qu'au Loyauté et sur l'est, des nuages circuleront en déposant des averses assez faibles. Ailleurs, le temps sera généralement sec, sous un ciel passagèrement nuageux, même si quelques gouttes resteront possibles en soirée sur le nord-ouest. L'alizée d'est-sud-est se maintiendra généralement entre 15 et 20 nœuds, localement sur la pointe nord-est, proche des 20 nœuds également. Sur l'ouest, il faiblira bien à l'abri de la chaîne de 10 à 15 nœuds et les températures minimales ce soir seront stables entre 22 et 26 degrés. Demain matin, sur l'ouest, le soleil sera présent malgré quelques nuages passagers. Ailleurs, le ciel restera passagèrement nuageux et de rares averses circuleront, principalement au Loyauté, sur l'est et la pointe nord sud. L'alizée d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds en général et il sera plus faible en début de matinée sur l'ouest.
Et c'est la fin de ce journal à 18h19. Merci de nous avoir suivis.